Bonjour Victoria, il est 16h et des poussières en ce vendredi 19 mai. Nous sommes aux portes du week-end. Merci de votre fidélité à la fréquence 107.9 FM. C'est Alexis Gagnon avec vous pour cette nouvelle édition de l'émission Le Débrief. Vos revues de presse internationales, nationales, francophonie, provinciales débutent dans quelques instants. Bonne émission à tous. La Suède abandonne ses poursuites judiciaires contre Julian Assange. C'est dans le journal Le Point et dans tous les médias de la planète. Je vous lis quelques lignes de la brève AFP publiée aujourd'hui vendredi. Le parquet suédois a annoncé vendredi qu'il abandonnait ses poursuites pour viol contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, refermant une saga judiciaire qui durait depuis 2010. La procureure Marianne Nye a décidé de classer sans suite l'enquête pour viol présumée contre Julian Assange, a indiqué le parquet suédois dans un communiqué. Même en l'absence de mandat d'arrêt européen, la police britannique a prévenu qu'elle serait obligée d'arrêter Julian Assange s'il sortait de l'ambassade équatorienne à Londres où il est retranché depuis 2012. Julian Assange avait violé en 2012 les conditions de sa liberté sous caution au Royaume-Uni. L'Équateur, qui a offert l'asile politique au fondateur de Wikileaks, appelle le Royaume-Uni à fournir à Assange une sortie sûre du pays. Donc Julian Assange qui demeure pour le moment dans l'ambassade de l'Équateur à Londres. Le principal intéressé indique que cet article de l'AFP a quant à lui déclaré vendredi dans un tweet qu'il n'oublie pas et ne pardonne pas d'avoir été détenu pendant 7 ans, dont 5 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres. Détenu pendant 7 ans sans charge, pendant que mes enfants grandissaient et que mon nom était traîné dans la boue, je ne pardonne pas et n'oublie pas, a tweeté l'ex-hacker australien. Cet épilogue est une victoire pour Julian Assange, âgé de 45 ans. Il a toujours nié les accusations portées contre lui en août 2010 par une Suédoise d'une trentaine d'années. Mediapart propose une analyse de cette nouvelle sur Julian Assange. Je vous lis quelques lignes d'un article signé Jérôme Hourdeau. Sur le portail Mediapart.fr, la justice suédoise a annoncé la suspension de l'enquête pour viol et l'abandon du mandat d'arrêt européen visant le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Celui-ci reste cependant sous le coup d'un mandat d'arrêt britannique et est également visé par une enquête américaine pour espionnage. Cette décision suédoise, si elle ne règle pas totalement la situation de Julian Assange, devrait cependant permettre de simplifier celle-ci en clôturant une affaire qui plaçait l'activiste, comme on l'appelle, au cœur d'un imbroglio juridique. Le fondateur de Wikileaks refusait depuis plus de 5 ans de répondre à la justice suédoise, qu'il accusait d'être manipulé par les États-Unis afin de lui faire payer la publication, au printemps 2010, des documents de l'armée américaine fournis par Chelsea Manning. La lanceur d'alerte Chelsea Manning, qui a été d'ailleurs libérée de prison cette semaine aux États-Unis. Et cet article de Mediapart rappelle qu'au cours des 5 dernières années, de nombreuses personnalités se sont mobilisées pour demander la libération de Julian Assange. Encore ce mardi, une lettre ouverte à Donald Trump demandant l'abandon des poursuites américaines a été publiée par la Courage Foundation, une ONG de défense des lanceurs d'alerte. Au mois de février 2016, un groupe de travail des Nations Unies avait accusé les autorités britanniques et suédoises d'imposer à l'activiste une détention arbitraire. Et comme le disait cet autre article de l'AFP, la suspension de l'enquête suédoise pour viol ne signifie pas pour autant la fin des ennuis judiciaires de Julian Assange. La police britannique a d'ores et déjà annoncé qu'il reste coupable d'avoir enfreint une décision de justice en Grande-Bretagne en ne respectant pas la liberté conditionnelle et en se réfugiant dans l'ambassade équatorienne. Et Ouest France entrevoit 5 scénarios pour l'avenir de Julian Assange. Numéro 1, Assange sort de l'ambassade et se rend en prison. Numéro 2, Assange est extradé vers les États-Unis. Numéro 3, Assange est extradé vers la Suède. En effet, la Suède pourrait faire volte-face, explique cet article, et réactiver le mandat d'arrêt. Numéro 4, Assange reste cloîtré, comme il l'est présentement, à l'ambassade de l'Équateur à Londres. Et numéro 5, Assange trouve refuge en Équateur, en Amérique centrale. Donc cet article se trouve sur le portail West France, Julian Assange, 5 scénarios pour l'avenir du fondateur de WikiLeaks. Trump, superstar en Arabie Saoudite, ennemi juré de l'Iran. C'est un article qui paraît dans le portail Libération. L'Arabie Saoudite, cette monarchie pétrolière, déroulera le tapis rouge ce week-end au président américain Donald Trump, qui devrait préciser sa politique à l'égard de la région du Moyen-Orient, indique cet article de Libération, au moment où l'Iran sera en train de célébrer la réélection ou l'élection de son président de la République. Des festivités grandioses se dérouleront chez son voisin et grand rival du Golfe, l'Arabie Saoudite, pour accueillir Donald Trump. Le président américain démarrera samedi sa toute première tournée à l'étranger, justement en Arabie Saoudite. Un choix délibéré qui confirme sa nette préférence pour l'allié traditionnel privilégié des États-Unis dans la région. Riyad, la capitale saoudienne, a en effet préparé un programme de 2 jours labellisé « historique » pour le locataire de la Maison-Blanche, indique cet article de Libération. Pas moins de 3 sommets sont organisés pendant ces 48 heures. Après une première journée consacrée au volet bilatéral américano-saoudien, le roi Salman a convié ses pairs des 5 autres monarchies pétrolières arabes du Golfe à se réunir avec Donald Trump. Le bouquet final sera un sommet arabo-islamo-américain prévu dimanche avec les chefs d'État ou leurs représentants d'une 50aine de pays arabes musulmans. Et on mentionnait justement les Iraniens il y a quelques instants dans cette nouvelle sur le portail de Libération. Les Iraniens qui sont en mode électoral. Sur le portail du Figaro, on nous donne le topo. Les Iraniens se sont rendus massivement aux urnes pour élire leur nouveau président. Alors que de longues files d'attente ont été constatées à travers le pays, le scrutin s'est passé dans une bonne ambiance, rapporte cet article de l'AFP. Le camp conservateur a dénoncé des infractions. Toutefois, la République islamique d'Iran élit ce vendredi son nouveau président. Hassan Rouhani, religieux modéré de 68 ans, affronte Ebrahim Raisi, religieux conservateur de 56 ans, proche du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Pour faire face à l'affluence des électeurs, le scrutin a dû être prolongé de 2 heures jusqu'à 20 heures. En famille ou entre amis, les électeurs ont attendu patiemment, parfois pendant plus d'une heure, leur tour de voter en prenant des selfies et en discutant politique dans la courtoisie, rapporte cet article de l'AFP. Avant même la clôture du vote, le camp Raisi a dénoncé des infractions et demandé une intervention immédiate contre des actions de propagande de certains responsables et partisans du gouvernement en faveur du président sortant. Le camp Raisi a également dénoncé une mauvaise présentation du nom d'Ebrahim Raisi sur les listes des bureaux de vote et l'absence de suffisamment de bulletins dans les zones déshéritées. Le président sortant et son adversaire ont appelé au respect du choix des Iraniens, quel que soit le résultat. L'un des premiers à avoir déposé son bulletin dans l'urne installée dans sa résidence de Téhéran a été Ali Khamenei, l'ayatollah, qui a appelé ses compatriotes à aller aux urnes massivement le plus tôt possible. On se transporte au Brésil maintenant, mais en restant dans les colonnes du journal Le Figaro. Au Brésil, le président Temer cherche à se maintenir au pouvoir. Affaibli par de graves accusations de corruption, le président brésilien Michel Temer veut s'assurer le soutien du Congrès pour rester au pouvoir, malgré les appels à la démission et l'ouverture d'une enquête. « Je ne démissionnerai pas, je le répète, je ne démissionnerai pas », a martelé jeudi Michel Temer lors d'une allocution télévisée de 5 minutes, précisant qu'il n'avait jamais autorisé le moindre paiement pour acheter le silence de quiconque. Une contre-attaque médiatique après les révélations explosives du journal O Globo. Selon le puissant quotidien brésilien, le président a été enregistré à son insu par un magnat de l'agroalimentaire qui l'aurait piégé en train de donner son accord pour le versement de pots de vin. Ces dessous-tables seraient destinées à acheter le silence d'Eduardo Cunha, ancien patron de la Chambre des députés, aujourd'hui en prison pour son implication dans le méga-scandale de corruption Petrobras. Ces accusations ont poussé la Cour suprême du Brésil à donner son feu vert à l'ouverture d'une enquête contre le président. Mediapart.fr aborde aussi le sujet de ce scandale autour de Michel Temer. Michel Temer a exclu de démissionner jeudi 18 mai alors qu'une enquête de la Cour suprême a été ouverte à la suite de sa mise en cause dans un enregistrement qui a fait l'effet d'une bombe au Brésil. Donc vous trouverez l'article de Jean-Mathieu Albertini dans les colonnes de Mediapart. C'est le correspondant de Mediapart au Brésil. Retour en Europe, un article fort intéressant sur la Grèce dans le portail Libération. Quitter la Grèce, c'est l'ambition de tous les jeunes. Confrontés à un taux de chômage abyssal, les étudiants grecs renouent avec l'émigration. Un drame pour la Grèce qui voit fuir ses diplômés les plus qualifiés. C'est signé par le journaliste Fabien Perrier, qui est correspondant de Libération à Athènes. Selon une étude menée pour la London School of Economics par Loïs Labrianidis, professeur en géographie économique et secrétaire général du ministère grec de l'économie, plus de 280 000 Grecs ont quitté le pays entre 2010 et 2015. Il serait 350 000 à être partis entre janvier 2008 et juin 2016. Selon Andy Avor, un réseau jeune entrepreneur, et même 427 000 sur la même période selon la Banque de Grèce. Une hémorragie pour un pays d'à peine 11 millions d'habitants. Certes, la Grèce a toujours été un pays de migration, mais si près d'un siècle plus tard, les étudiants de la plus ancienne école de sciences politiques de Grèce renouent avec l'immigration, c'est autant à cause de l'austérité que d'un marché du travail depuis longtemps inadapté. Dans l'histoire récente du pays, indique cet article de Libération, il y a eu trois phases migratoires. Dans les années 60, après la guerre civile, la Grèce a connu un exode rural et d'importants départs de main-d'œuvre vers d'autres pays d'Europe, notamment l'Allemagne. Dans les années 90, en revanche, c'est la Grèce qui a accueilli plus d'un million de migrants venus d'Europe de l'Est, essentiellement d'Albanie. Et depuis 2010, la Grèce subit à nouveau un mouvement de départ vers l'étranger qui touche cette fois une population très qualifiés. Et c'est bien le problème. Donc vous trouverez cet article « Portrait de la jeunesse diplômée en Grèce » dans le portail du média Libération. C'est à l'adresse libération.fr sous la plume de Fabien Perrier. L'info se poursuit dans cette revue de presse internationale. Motion de défiance de Podemos contre le gouvernement Rajoy. C'est en Espagne, dans le fil de l'agence Reuters. Le mouvement anti-austérité espagnol Podemos a annoncé vendredi le dépôt d'une motion de défiance à l'encontre du gouvernement dirigé par Mariano Rajoy, reprochant à sa formation politique, le Parti Populaire, d'être cité dans plusieurs affaires de corruption. Podemos, qui a recueilli près d'un cinquième des suffrages lors des législatives de 2016, ne compte pas suffisamment de députés pour faire tomber le président du gouvernement espagnol. La motion de défiance sera examinée jeudi prochain. Les socialistes, qui doivent se doter dimanche d'un nouveau dirigeant, ne devraient pas l'approuver. Plusieurs dizaines de membres du Parti populaire, dont l'ancien ministre de l'économie et directeur général du FMI, Rodrigo Rati, ont été impliqués dans des scandales de corruption au cours des dernières années, rappelle cet article de Reuters. Extrême-Orient maintenant, mais toujours dans le fil de Reuters, Pékin et Séoul reprennent langue. La Chine est désireuse de replacer ses relations avec la Corée du Sud sur la bonne voie, a déclaré vendredi le président chinois Xi Jinping, mais celui-ci invite Séoul à prendre en compte ses inquiétudes. Les relations entre la Corée du Sud et la Chine, qui sont d'importants partenaires commerciaux, se sont tendues récemment en raison de la décision de Séoul de déployer sur son sol le système antimissile américain pour faire face à la menace nucléaire potentielle de la Corée du Nord. Le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in, qui a pris ses fonctions la semaine dernière, a toutefois exprimé des réticences concernant ce dispositif de destruction de missiles à haute altitude, considéré comme une agression par la capitale nord-coréenne et rejeté par la Chine, qui y voit une menace stratégique et un moyen d'espionnage. C'est dans ce contexte que le président Moon Jae-in a dépêché à Pékin un émissaire, Lee Ai-chan, qui a été reçu vendredi par le président chinois et à qui il a remis une lettre manuscrite du nouveau président sud-coréen. Le ministre chinois des Affaires étrangères, s'exprimant à l'issue d'un entretien avec l'émissaire de Séoul, a toutefois souligné que la Chine espère que la Corée du Sud saura respecter les inquiétudes de la Chine et résoudra de manière appropriée la question du dispositif THAAD. États-Unis. L'aviation américaine aurait eu un incident avec des avions chinois. C'est dans le portail de West France. Deux avions de chasse chinois ont intercepté un appareil américain de manière non professionnelle alors qu'il volait mercredi dans l'espace aérien international au-dessus de la mer de Chine orientale, a rapporté l'aviation américaine. Cette question est en cours de règlement avec la Chine via les canaux diplomatiques et militaires appropriés, a déclaré le porte-parole de l'armée américaine, Laurie Hodge. L'avion américain, un Boeing WC-135, conçu pour détecter les radiations, effectuait une mission de routine et opérait conformément au droit international, a assuré l'aviation américaine. La Chine, rappelle cet article de West France, se méfie de toute activité militaire américaine au-dessus de la mer de Chine méridionale qu'elle revendique dans sa quasi-intégralité. Le 8 février dernier, rappelle cet article, un avion espion américain P-3 et un avion militaire chinois se sont frôlés dans cette région. Et on termine cette revue de presse internationale avec un portrait du milliardaire Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX notamment. C'est dans le portail de l'hebdomadaire L'Actualité. Des octets dans mes neurones, Elon Musk crée une société qui travaillera à repousser les limites du cerveau humain. Elon Musk, l'homme derrière Tesla et SpaceX, aspire désormais à améliorer les capacités mentales de l'être humain en fusionnant cerveau et ordinateur à l'aide d'implants dans notre système nerveux. Pour y parvenir, le milliardaire a lancé une nouvelle entreprise intitulée Neuralink. Cette fusion homme-machine pourrait rendre possible le stockage de notre mémoire sur des supports externes ou la stimulation de tissus nerveux chez des patients atteints de maladies comme l'Alzheimer. Si Elon Musk cherche à repousser les limites biologiques du cerveau humain, c'est qu'il pressent un péril pour l'humanité, l'intelligence artificielle. L'homme d'affaires et visionnaire craint qu'elle finisse par surclasser l'intelligence humaine et ne réduise l'homme à un rôle de subalterne ou pire, d'animal de compagnie. La société Neuralink constitue pour lui un moyen de repousser cette échéance. Vous trouverez cet article dans le portail de l'hebdomadaire L'Actualité. Et c'est sur cette actualité justement que se referme la revue de presse internationale du 19 mai. Demeurez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques secondes avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute du Débrief, édition du vendredi 19 mai. Nous passons aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. Le premier ministre Justin Trudeau et le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, se sont rencontrés dans un hôtel de Seattle jeudi afin de discuter de leurs objectifs communs sur le commerce, les réfugiés et les changements climatiques. Une dizaine de manifestants opposés aux oléoducs s'étaient rassemblés devant l'hôtel dans le but de questionner le premier ministre canadien sur ses engagements en matière d'environnement. Dans une brève allocution à la presse avant la rencontre, Justin Trudeau a déclaré que le Canada et les États-Unis partagent des engagements communs pour plusieurs enjeux, dont la lutte contre les changements climatiques, l'ouverture des échanges commerciaux et l'idée que la diversité constitue une force. De son côté, le gouverneur de l'État de Washington a affirmé que les deux pays partagent un désir commun de combattre les changements climatiques, tout en reconnaissant que cela n'empêche pas la croissance des économies. À l'extérieur de l'hôtel où les deux dirigeants se rencontraient, la presse canadienne a interviewé quelques membres parmi les manifestants, dont Janine Hampton, membre de la Première Nation Colville Okanagan dans le nord de l'État de Washington. Madame Hampton a souligné que Justin Trudeau se définit comme un allié des peuples autochtones alors qu'il appuie la construction d'oléoducs qui menacent l'eau potable des communautés autochtones. Il approuve tous ces oléoducs et tout ce que l'industrie pétrolière demande, a-t-elle dit. Il appuie les grandes entreprises. Il prétend être un allié des peuples autochtones. Eh bien ça, ce n'est pas être un allié, a-t-elle déclaré. Donc cet article paraît dans le fil de la presse canadienne. Justin Trudeau accueilli par des manifestants à Seattle. Dans plusieurs médias, on rapporte le dévoilement de la taxe carbone canadienne dans l'actualité, notamment la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé jeudi à quoi ressemblera son système de prix sur le carbone. Celui-ci s'appliquera uniquement aux provinces qui n'auront pas développé leur propre tarification d'ici 2008 ou à celles dont la tarification n'atteint pas les objectifs d'Ottawa. Le Québec a, par exemple, déjà sa propre bourse du carbone. Il serait donc moins touché par cette nouvelle taxe que mettra en place Ottawa. La taxe fédérale sur le carbone de 10 $ la tonne de gaz à effet de serre en 2018 s'appliquera à tous les types de combustibles fossiles. Elle augmentera de 10 $ par année pour atteindre 50 $ en 2022. Cela équivaudra à une taxe de 2 cents le litre d'essence en 2018 qui augmentera graduellement à près de 12 cents le litre d'essence en 2022. Cette taxe pourrait donc s'appliquer uniquement à la Saskatchewan qui refuse toujours d'imposer son propre prix sur le carbone. Son premier ministre Brad Wall a réitéré sa menace jeudi de poursuivre le gouvernement fédéral. Et les 5 provinces qui n'ont pas de taxe carbone actuellement, rappelle cet article paraissant dans l'hebdomadaire L'Actualité, se sont toutes engagées à développer leur propre système d'ici 2018, date qu'a fixée Ottawa dans son plan de mise en place. Donc cette nouvelle paraît dans le portail L'Actualité. On poursuit cette revue de presse provinciale. Les entreprises canadiennes ont envoyé 231 milliards dans les paradis fiscaux. C'est un article que signe Jean-Nicolas Blanchette dans le Journal de Québec. Après les États-Unis, c'est dans les paradis fiscaux que les entreprises canadiennes ont investi le plus d'argent en date de 2016, écrit-il. C'est ce que révèle une compilation de notre bureau d'enquête réalisée à partir d'une étude annuelle de Statistique Canada publiée au début du mois, dit-il. C'est sans surprise qu'on apprend que c'est aux États-Unis que les entreprises canadiennes ont le plus d'argent investi, soit 474 milliards. Mais au deuxième rang vient un groupe de 49 petits pays ou États qui ont des taux d'imposition particulièrement bas, tous considérés par l'Assemblée nationale au Québec comme des paradis fiscaux. Ce groupe inclut par exemple les îles Caïmans, Hong Kong, la principauté d'Andorre en Europe. Les 231 milliards sont un chiffre modeste puisque Ottawa ne dispose pas de toutes les données sur les plus petits de ces paradis fiscaux. Seulement à la Barbade, un paradis fiscal notoire, les entreprises canadiennes avaient placé en date de 2016 plus d'argent directement que chez 4 grands partenaires commerciaux réunis, à savoir la Chine, le Mexique, le Japon et l'Allemagne. Selon l'estimation du bureau d'enquête du Journal de Québec, ce sont donc plus de 20% des 1000 milliards de dollars placés à l'étranger par les entreprises canadiennes qui ont pris le chemin des paradis fiscaux. Et cet article du Journal de Québec mentionne que la taille des placements canadiens dans les paradis fiscaux a d'ailleurs doublé depuis 10 ans. Donc un article vraiment intéressant, signé par le journaliste Jean-Nicolas Blanchet dans le Journal de Québec, journaldequebec.com. Le journal Le Droit, qui est un phare de la francophonie hors Québec à Ottawa, nous donne les dernières nouvelles à propos de la nomination de Madeleine Meyer. Erreur monumentale de Trudeau, selon Thomas Mulcair. C'est sous la plume de Paul Gaboury. Madeleine Meyer a eu droit à un accueil hostile jeudi au Parlement alors qu'elle a eu à faire face aux critiques nourries des députés de l'opposition qui contestent le processus derrière cette proposition du Premier ministre Justin Trudeau pour le poste de commissaire aux langues officielles. L'ancienne ministre libérale à Queen's Park, en Ontario, avait été invitée à comparaître devant le comité des langues officielles pour expliquer son intérêt pour ce poste d'agent du Parlement dont le salaire s'élève à plus de 310 000 $ par année. Dans mes nouvelles fonctions, je serai non partisane, a-t-elle assuré. Je ne peux effacer 13 ans de politique partisane de mes fonctions comme ministre. Mon objectif et ma passion ont toujours été la défense des francophones. J'étais la seule francophone au cabinet. J'ai toujours fait ce travail pour défendre les francophones. Les députés libéraux ont tour à tour souligné l'engagement et le travail de l'ancienne députée d'Ottawa, Vanier, à titre de ministre responsable des affaires francophones de l'Ontario. Le chef néo-démocrate Thomas Mulcair, quant à lui, a lancé à l'ancienne ministre qu'il ne contestait pas ses compétences ni son engagement, mais plutôt ses allégeances libérales qu'elle ne peut effacer. Et c'est ça le problème, a-t-il répété plus d'une fois, de même que le processus non transparent ayant mené à sa nomination. Dans son témoignage, Madeleine Meyer a admis qu'elle avait quitté Queen's Park dans l'espoir d'obtenir un poste de sénatrice. Et cet article mentionne que Madeleine Meyer est une contributrice du Parti libéral du Canada. Elle avait donné 5 000 $ au Parti libéral durant le passé et 500 $ spécifiquement à la campagne de Justin Trudeau en 2015. Et cet article mentionne aussi que la ministre responsable du dossier des langues officielles, Mélanie Joly, a passé une bonne partie de la séance des questions à la Chambre des communes à défendre cette nomination. Donc cette nomination de Madeleine Meyer au poste de commissaire des langues officielles, ça n'est pas gagné pour Madeleine Meyer. On va voir ce que l'avenir lui réserve. Vous trouverez cet article dans le journal Le Droit. Madeleine Meyer, erreur monumentale selon Thomas Mulcair. Dans les colonnes du journal La Presse à présent, traite des femmes durant le Grand Prix de Formule 1, Montréal commande une étude. C'est signé par le journaliste Pierre-André Normandin. Montréal commande une étude sur la traite des femmes durant le Grand Prix de Formule 1. Se disant préoccupé par les nombreux reportages qui témoignent du phénomène chaque année, le maire de Nicolet dit avoir discuté de la situation avec les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard. Depuis de nombreuses années, des critiques fusent pour dénoncer que des activités criminelles en lien avec la traite des femmes et des filles auraient lieu durant cet événement. Si cette situation s'avérait, elle ne pourrait d'aucune façon être tolérée par mon administration, a déclaré Denis Coderre, maire de Montréal. Montréal va donner 3 ans au conseil qui est chargé de faire cette étude pour accumuler le maximum de données et d'observations possibles durant les éditions du Grand Prix de Formule 1. Un blog du Journal de Montréal a attiré notre attention, c'est sous la plume de Marie-Pierre Roberge. C'est intitulé « Infaillible, les banques canadiennes ?» La semaine dernière, on apprenait que l'agence de notation Moody's abaissait la cote de 6 grandes banques canadiennes. Le système bancaire canadien, soi-disant infaillible, montre maintenant quelques signes de faiblesse, écrit-elle. Les raisons de la décote, la hausse des prix de l'immobilier et l'endettement des consommateurs et consommatrices. Ainsi, la Banque du Canada pourrait entrevoir une hausse des taux d'intérêt pour calmer l'appétit pour les emprunts et conséquemment ralentir la pression de l'endettement des ménages canadiens. Néanmoins, cette hausse ralentirait la consommation des ménages, qui est le moteur de la croissance du produit intérieur brut, le PIB canadien, et de manière plus problématique, cette mesure pourrait acculer de nombreux ménages à la faillite. La nouvelle décote des banques canadiennes indique qu'elle joue avec le feu, écrit Marie-Pierre Roberge dans cet article. À moins de faire preuve d'une confiance aveugle envers le système bancaire canadien, ça n'a rien de surprenant. Depuis la crise de 2008, nombreux sont ceux et celles qui s'imaginent que l'environnement peu compétitif dans lequel opèrent les banques canadiennes nous met à l'abri des risques d'une éventuelle crise. Mais le système bancaire canadien a beau être moins dérégulé, cela n'empêche pas aujourd'hui cette décote, puis que plusieurs se demandent si le niveau d'endettement des ménages canadiens est soutenable. Donc Marie-Pierre Roberge qui se demande si les banques canadiennes sont infaillibles, c'est dans son blog du Journal de Montréal. Le journal Métro, à travers le fil de la presse canadienne, nous apprend que le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, se rendra en Israël où il rencontrera Benjamin Netanyahou, le chef de l'État hébreu. Le premier ministre Philippe Couillard va s'entretenir avec le premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, jeudi prochain au terme de sa mission d'une semaine en Israël et en Cisjordanie. Quelques jours plus tôt, il aura rencontré le premier ministre de l'autorité palestinienne, Rami Hamdallah. D'abord économique, cette mission du premier ministre québécois aura donc un important volet de rencontres politiques de haut niveau. C'est la première fois qu'un premier ministre du Québec se rend en Israël en mission officielle, une escapade d'environ une semaine d'abord axée sur l'innovation, mais qui fera aussi une place à la stimulation des échanges commerciaux, au partenariat en éducation et aux rencontres de dirigeants politiques tant israéliens que palestiniens. En Israël, la délégation québécoise parcourra une bonne partie du pays, se rendant notamment à Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, avec un bref crochet du côté des territoires palestiniens à Ramallah, en Cisjordanie. Les échanges commerciaux entre le Québec et Israël sont négligeables, indique cet article, ayant atteint 345 millions de dollars en 2016. Israël, un pays de taille semblable au Québec, se situe au 38e rang des partenaires commerciaux du Québec. De ce côté, donc, tout reste à faire, peut-on lire dans cet article. Et on termine cette revue de presse nationale avec une nouvelle qui nous arrive de Nouvelle-Écosse, la santé au cœur du débat. Les représentants des principaux partis politiques de la Nouvelle-Écosse se sont affrontés au sujet de la santé lors d'un débat électoral télévisé jeudi. Le chef du parti progressiste conservateur Jamie Bailey et son homologue néo-démocrate Gary Burrill ont attaqué le premier ministre libéral sortant Stephen McNeil sur ses résultats en matière de santé. Jamie Bailey a remis en question une promesse qu'avait faite McNeil en 2013 selon laquelle tous les néo-écossais auraient accès à un médecin. Le chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse a fait remarquer que la province avait réduit les coûts administratifs en fusionnant différentes agences de santé. Le chef du Parti néo-démocrate néo-écossais a demandé au premier ministre sortant s'il admettait que la province traverse une période de crise dans le domaine de la santé. Le premier ministre sortant a répondu qu'en dépit des défis, le système de santé de la province se portait bien. Les électeurs de la Nouvelle-Écosse se rendent aux urnes le 30 mai, rappelle cet article paraissant dans le fil de la presse canadienne. Ici se conclut cette revue de presse nationale pour le vendredi 19 mai. L'émission Le Débrief vous revient dans quelques secondes avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Alors, on a deux nouvelles dans cette rubrique francophonie aujourd'hui. Tout d'abord, cette nouvelle qui paraît dans le portail Outaouais de Radio-Canada, donc le portail régional d'Ottawa-Gatineau. Morrill Bélanger a maintenant son école à Ottawa. Le nom de l'ancien député Morrill Bélanger ornera dorénavant la devanture d'une école d'Ottawa. L'école élémentaire publique Le Trillium est en effet devenue jeudi l'école élémentaire publique Morrill Bélanger. Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CEPEO, explique vouloir profiter du 30e anniversaire de l'établissement scolaire pour lui donner le nom du regretté député libéral fédéral d'Ottawa, Vanier, Morrill Bélanger. Monsieur Bélanger a voué sa vie à la francophonie de l'Ontario, a déclaré Édith Dumont du CEPEO. Il est toujours une inspiration pour nous et pour nos élèves. Son legs lui survivra. Morrill Bélanger, qui est mort des suites de la maladie de Lou Gehrig l'été dernier, rejoint les rangs des politiciens franco-ontariens qui ont une école à leur nom. C'est notamment le cas de la présidente du mouvement SOS Montfort, Gisèle Lalonde, et du père de la loi sur les services en français de l'Ontario, Bernard Grandmaître. L'école élémentaire publique Morrill Bélanger est située sur la rue Montgomery, dans le secteur Vanier, à Ottawa. Et la deuxième nouvelle repérée pour vous dans cette rubrique francophonie du 19 mai, l'UQAC sera l'hôtesse du 86e congrès de l'ACFAS en 2018. L'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, sera l'hôtesse en 2018 du 86e congrès de l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, qui se tiendra sous la présidence du vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création de l'UQAC, Mustapha Fahmy. Plus de 3 500 congressistes sont attendus lors de ce prestigieux événement scientifique qui se déroulera du 7 au 11 mai 2018, principalement sur le campus universitaire de Saguenay. Événement d'envergure, nous rappelle ce communiqué de l'UQAC, le congrès de l'ACFAS est le plus important rassemblement multidisciplinaire du savoir et de la recherche de la francophonie. Chaque année, des milliers de chercheurs et d'utilisateurs issus d'une trentaine de pays y participe. Pour la quatrième fois de son histoire, l'UQAC accueillera cet important rendez-vous de la communauté scientifique francophone. Le thème de la pensée libre, valeur cardinale de la recherche scientifique, sera au cœur des conférences et des activités de partage et de diffusion des connaissances qui seront proposées aux chercheurs francophones de partout sur la planète. Près de 135 colloques et quelques 500 communications libres seront présentées durant la semaine du congrès, ainsi qu'une série d'activités pour le grand public. La coprésidence du comité scientifique sera par ailleurs assurée par François Ouellette, professeur au département des arts et des lettres, et par Madame Diougou Kouassef, professeur au département des sciences appliquées. Et ce communiqué rappelle que le congrès de l'ACFAS est présenté en alternance en région et dans les grands centres urbains du Québec depuis 1933. L'Université du Québec à Chicoutimi a accueilli le congrès en 1985, 1995 et 2005. C'était vos informations à thématique francophone dans cette édition du vendredi 19 mai. Merci de votre écoute du Débrief, votre rendez-vous info quotidien, et merci surtout de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. C'était le Rémi Bolduc Jazz Ensemble avec une interprétation de Take Five, une célèbre pièce de Dave Brubeck. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie. On va poursuivre dans l'information du jour. On va passer aux nouvelles de Colombie-Britannique. Votre revue de presse provinciale s'ouvre immédiatement. On débute avec une nouvelle aperçue pour vous sur le portail de Radio-Canada, une veillée pour rendre hommage aux victimes du fentanyl. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'église Christchurch Cathedral à Vancouver pour une veillée en hommage aux victimes de surdose mortelle de fentanyl. Le doyen de l'église, Peter Elliott, a affirmé que la veillée de jeudi soir était l'occasion de permettre aux familles de se réunir et de partager leur deuil avec d'autres personnes qui comprennent leur perte. Certaines familles sont gênées et ne savent pas quoi dire, a-t-il dit. La notion d'être toxicomane ou de faire une surdose entraîne beaucoup de jugements négatifs. Peter Elliott a soutenu que la ville de Vancouver doit travailler pour éliminer la stigmatisation liée à la crise de surdose en Colombie-Britannique. Cette veillée qui a rassemblé environ 500 personnes de religions et de Premières Nations différentes a aussi accueilli des travailleurs de la santé de première ligne. La coordinatrice clinique de l'hôpital Saint-Paul à Vancouver, Élise Durant, a indiqué que son équipe se consacre de tout cœur à son travail relativement à la crise des surdoses. « Toutes ces pertes pèsent lourdement sur nous et la situation ne fait qu'empirer », a-t-elle soutenu. Et cet article rappelle bien sûr que la Colombie-Britannique a déploré le décès de 914 personnes en 2016 en raison d'une surdose. Entre janvier et mars 2017, les surdoses mortelles liées à la consommation de drogues illicites ont fait 338 victimes. Donc voilà, je le rappelle, cet article paraît sur le portail de Radio-Canada, une veillée pour rendre hommage aux victimes du fentanyl. Et on reste sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. La loi facilitant l'ouverture de centres d'injection supervisés entre en vigueur. Le projet de loi du gouvernement Trudeau comprend, entre autres, l'abolition de 26 critères stricts pour l'ouverture de sites d'injection supervisés. Et cette loi a reçu la sanction royale. Elle est maintenant une loi, nous indique la presse canadienne. Sous l'ancienne législation, les nouveaux centres devaient fournir des preuves médicales et scientifiques quant aux avantages, en plus d'obtenir des lettres signées par le ministre provincial de la Santé, la police locale et les autorités régionales de la santé. Les experts affirmaient que ces critères, instaurés par le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper, formaient trop de barrières. La loi C-37, comme on l'appelle, simplifie le processus de demande pour les communautés qui désirent ouvrir un centre de consommation supervisé. Selon le gouvernement, le nouveau processus allégera le fardeau administratif des demandeurs en rendant le processus conforme aux 5 exigences clés énoncées par la Cour suprême du Canada. La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a affirmé que le pays faisait face à une crise des opioïdes sans précédent et que la loi aidera les gouvernements et les services sociaux à offrir de l'aide aux personnes toxicomanes. Un peu plus loin dans le portail de Radio-Canada, on nous informe que le festival de musique de Pemberton est annulé 3 semaines après avoir dévoilé sa programmation. Le festival de musique de Pemberton en Colombie-Britannique a annoncé que l'événement qui devait avoir lieu du 13 au 16 juillet a été annulé. Les organisateurs affirment sur le site web du festival où des billets pouvaient encore être achetés cette semaine. Les organisateurs donc affirment que le festival est en faillite. Il n'y a malheureusement pas de remboursement automatique, peut-on lire sur le site désormais réduit à une simple page annonçant la nouvelle. Les personnes ayant déjà acheté leurs billets peuvent déposer une réclamation auprès de l'entreprise Ernst & Young, nommée fiduciaire dans ce dossier. Des remboursements peuvent aussi être effectués si le billet a été acheté par carte de crédit sur un site tiers. Il est conseillé de contacter sa banque pour connaître la meilleure démarche à suivre, indique cet article de Radio-Canada. On va se déplacer dans les colonnes de l'hebdomadaire grand public Science et Avenir. Un fossile de dinosaure en parfait état, un dinosaure extrêmement bien conservé, a été découvert dans l'ouest du Canada. Avec ses 5 mètres de long, le nodosaure ressemble à l'ankylosaure, nous informe Science et Avenir. Retour sur les conditions exceptionnelles de sa mort, particulièrement propices à la fossilisation. Avec quatre rangées de pointes sur le dos et des écailles grosses comme des tuiles, voilà à quoi ressemble le monstre découvert par hasard dans une mine de l'Alberta en 2011. Après plus de 7000 heures de travaux à la pelle et au pinceau, le voilà qui sort de terre prêt à révéler ses secrets. Jamais fossile de nodosaure n'avait été retrouvé dans un si bon état de conservation, nous informe cet article de Science et Avenir. Après analyse, nous en saurons beaucoup plus sur son mode de vie et surtout son régime alimentaire, car il est mort avec le ventre plein, peut-on lire dans cet article. Herbivore paisible, ce dinosaure se serait noyé il y a quelques 110 millions d'années dans le nord de l'Amérique. Son fossile a traversé les âges avec un niveau de conservation aussi rare que de gagner au loto. Les paléontologues chargés d'examiner l'animal ont confié à la National Geographic Society leur première conclusion. Probablement mort près d'un fleuve, ce nodosaure d'environ 5 mètres de long aurait été emporté par le courant jusqu'à la mer. Et là, son cadavre aurait surnagé grâce au gaz produit par une certaine bactérie. Puis le courant aurait emporté son corps en pleine mer pour finir par couler. Une fois au fond de l'eau, les sédiments ont commencé à le recouvrir, boue, sable et autres dépôts l'ont protégé des charognards sous-marins. Mais ce n'était que le début de son aventure, peut-on lire dans cet article de Science et Avenir, car plus de 100 millions d'années plus tard, des travaux miniers dans l'Alberta se sont heurtés à son corps minéralisé. Depuis le début du mois de mai 2017, la bête attend les visiteurs du Royal Tyrrell Museum. Alors, si vous voulez pousser un petit peu plus loin dans la lecture de cet article, c'est sur le portail scienceetavenir.fr. Retour sur le portail de Radio-Canada, Colombie-Britannique. Peu de Britanno-Colombiens sont prêts à réagir en cas de catastrophe. C'est un article qui a été publié il y a un peu plus d'une semaine, mais je tenais à vous en faire la mention. Si une catastrophe survenait aujourd'hui, seulement 7% des Britanno-Colombiens seraient prêts à y faire face, même si 34% des personnes qui ont répondu à un sondage Ipsos Reid estiment que leur niveau de préparation à une situation d'urgence est bon. Alors, quelques pourcentages issus de cette étude. 11% des Britanno-Colombiens ont acheté une trousse d'approvisionnement d'urgence et ont un certificat en premier soin. 15% des Britanno-Colombiens ont acheté une trousse d'approvisionnement d'urgence. 17% ont un plan de sécurité et 31% ont quelqu'un dans leur maison qui a la formation nécessaire pour donner les premiers soins. C'est avec cette actualité qu'on boucle le tour d'horizon des nouvelles provinciales. Mon nom est Alexis Gagnon. Vous écoutez l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. On fait une courte pause et au retour, on va s'intéresser à la météo du week-end. Ça s'annonce ensoleillé, alors on va se croiser les doigts, tous les détails après la pause. De retour dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien à l'antenne du 107.9 FM dans la grande région de Victoria. On va se rendre tout de suite sur le portail d'Environnement Canada, météo.gc.ca, pour consulter les prévisions météorologiques du week-end. Alors actuellement, en cette fin d'après-midi du 19 mai, on a 18 degrés au mercure à l'aéroport de Victoria. Ça va descendre au fil des prochaines heures pour se fixer à environ 11 degrés en fin de soirée et au cours de la nuit. Probabilité d'averse de 30% en fin de soirée. Le soleil est avec nous demain, samedi 20 mai. 19 degrés au mercure demain et ça demeure dégagé en soirée. Dimanche 21 mai, le mercure montera à 24 degrés. Donc, ça sera carrément estival, nous indique Environnement Canada sur le portail météo.gc.ca. Et le beau temps devrait se poursuivre ainsi durant le début de la semaine du 22 mai. Alors, c'est un scénario vraiment très agréable que nous promet Environnement Canada. Beaucoup de soleil dès demain, samedi 20 mai, et ça culmine dimanche 21 mai avec un maximum de 24 durant la journée. Alors voilà, ce sont vos prévisions météo du week-end. Alexis Gagnon au micro. Merci de m'avoir accompagné dans cette heure d'information à l'antenne de CILS FM. On va se retrouver lundi 22 mai, même heure, même fréquence, et on se laisse sur deux pièces de Yann Perrault. À très bientôt. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Baby boom boom.
C'est matelot et viva la vie dans le chaos, yeah. Nous irons par-delà l'hystérie des eaux. Y'a qu'une vie à vivre, il faut la rider. C'est la vie, oh yeah. Nous voguerons malgré les bas et les hauts. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Comme on vient décoller, on va monter haut et vivre la vie dans le chaos, yeah. Nous irons par-delà l'hystérie des eaux. Y'a qu'une vie à vivre, faut la rider. Voguerons malgré les bas et les hauts et vivons la vie dans le chaos, yeah. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom. Baby boom boom boom.
Les G.I. Joe, je regarde en haut. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux.
Si bas les cons, les contraventions, la fucking insomnie, la surconsommation, moisir dans le trafic, bouffer du boudin, sentir le monde en panique, les lundis matins. Si pas la cupidité, un bon coup de pied au cul, l'avidité, les oignons crus, les demi-dieux, les pseudos experts de mes deux, dans la télé, dans la radio, dans les journaux.
J'aime les oiseaux.
Les grands impuissants qui se font la guerre.